prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Thomas Hinault, je suis chercheur en neuropsychologie à l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et je suis le lauréat 2020 du prix Théodule Ribaud de psychologie scientifique. Ce prix donc m'a été décerné par le Comité national français de psychologie scientifique. Il m'a été remis par Olivier Houdet, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, lors d'une cérémonie à l'Institut de France. Alors rapidement, avant de commencer, je voudrais rappeler que Théodule Ribaud est le principal fondateur de la psychologie scientifique française. Il a théorisé en 1881 la loi de Ribaud, devenue célèbre par la suite, selon laquelle les souvenirs anciens sont plus résistants aux effets du vieillissement et aux effets de diverses pathologies que les souvenirs récents. C'est un effet qui s'est vérifié et qui est toujours considéré comme valide à ce jour, donc au fil des études en neuroimagerie, des études de cas de patients. Concernant mon parcours et mes travaux, donc après une spécialisation en neuropsychologie et une thèse réalisée à l'Université Aix-Marseille, j'ai réalisé deux post-docs à l'Université McGill à Montréal, puis à l'Université Johns Hopkins à Baltimore. J'ai ensuite obtenu un poste de chercheur à l'INSERM et j'ai rejoint, donc dans le cadre de cette prise de poste, l'unité de recherche 1077 intitulée Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine. L'unité étudie la mémoire chez le sujet sain, depuis l'enfant d'âge scolaire jusqu'à la personne âgée, et dans diverses pathologies comme la maladie d'Alzheimer, le syndrome amnésique et le trouble de stress post-traumatique. Elle s'intéresse aux bases cérébrales et des changements liés à l'âge et à la pathologie. Mes travaux portent sur le vieillissement, donc les changements cérébraux et cognitifs qui surviennent avec l'avancée en âge et l'entrée dans le troisième tiers de nos vies. Donc, c'est un sujet qui nous concerne tous. Alors, lors de mes recherches à l'Université Johns Hopkins, j'ai développé une ligne de recherche que je poursuis à présent en tant que chercheur INSERM, qui vise à préciser l'effet du vieillissement sur la connectivité cérébrale. On parle de connectivité cérébrale lorsqu'on fait référence à la manière dont les régions cérébrales communiquent entre elles. Et j'utilise les mesures de cette connectivité cérébrale pour comprendre les déterminants du maintien ou du déclin du fonctionnement cognitif individuel avec l'âge. En effet, il est important de noter que nous ne sommes pas tous égaux quant aux effets du vieillissement, avec des individus présentant des capacités préservées jusqu'à un âge avancé, avec une autonomie à domicile préservée, des activités du quotidien réalisées sans difficulté, tandis que d'autres sont plus affectés et de façon donc plus précoce et vont être à risque de développer une pathologie de vieillissement, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Avec le vieillissement global de la population, le nombre de personnes atteintes de pathologies du vieillissement est en constante augmentation et il est nécessaire de mieux détecter ces troubles avant que l'impact sur le quotidien soit plus important pour proposer des méthodes adaptées et essayer de préserver un fonctionnement autonome le plus longtemps possible. Alors, préciser ces changements avec l'âge, préciser les différences entre individus, nécessite l'utilisation de méthodes permettant de distinguer les processus préservés et ceux présentant un déclin de leur efficacité, ainsi que les différentes trajectoires cognitives entre individus avec l'avancée en âge. Et donc pour cela, on utilise principalement la neuroimagerie, on visualise la structure et le fonctionnement du cerveau, pour déterminer donc les caractéristiques structurelles et fonctionnelles individuelles et leur association avec les difficultés du quotidien. Donc on parle de structure pour désigner la densité de matière grise de chaque région cérébrale et l'intégrité des fibres de matière blanche qui vont connecter ces régions. On va voir, je vais en parler juste après, que l'intégrité de ces fibres est très importante dans l'évolution des performances cognitives au cours du vieillissement. Cette matière blanche tient son nom d'une substance particulière, la myéline, qui forme une gaine autour des fibres nerveuses et qui va permettre d'assurer l'isolation électrique et la qualité de la transmission des informations. C'est un réseau de fibres qui va se développer pendant l'enfance et l'adolescence, avant de rester relativement stable pendant la vie adulte et qui va présenter par la suite un déclin de son intégrité après 60 ans. Donc, ça, c'est la structure. La fonction désigne à l'inverse donc l'activité des régions cérébrales et les communications entre ces régions. Donc, les avancées récentes sur l'étude du fonctionnement cérébral donc, ont reposé sur des méthodes qui présentent une excellente résolution spatiale, comme l'IRM, mais qui ne présente une résolution temporelle de l'ordre de plusieurs secondes. Donc, on va être très précis dans les régions cérébrales impliquées. Par contre, la dynamique temporelle des communications entre régions cérébrales et son évolution au cours du vieillissement reste mal connue. Alors, pourquoi préciser ces dynamiques? Préciser ces dynamiques est important car la plupart des activités cognitives de haut niveau qui sont affectées par l'âge et la pathologie, comme la mémoire, le raisonnement, implique l'engagement de nombreux processus cognitifs en succession rapide et dans des durées souvent inférieures à la seconde. Si on parle par exemple de la conduite automobile, il va falloir gérer un ensemble d'activités dans des durées très courtes. Si jamais il y a un ralentissement sur l'autoroute, il va falloir rapidement signaler le ralentissement aux automobilistes derrière soi, freiner, réguler sa vitesse, tout ça dans des durées qui vont être extrêmement rapides. Donc, c'est surtout en fait dans ces types de tâches très complexes qui impliquent des dynamiques courtes qu'on va observer les effets du vieillissement les plus importants. À l'inverse, on a beaucoup moins d'effets du vieillissement dans des tâches qui ne sont pas contraintes par le temps. Par exemple, jouer aux échecs. Les échecs permettent de se reposer sur une expertise et on peut prendre le temps de réfléchir au prochain mouvement, d'élaborer différentes stratégies. Et dans ces domaines-là, à l'inverse, on va observer relativement peu d'effets du vieillissement sur les performances, voire même des performances qui vont être meilleures que pour des individus plus jeunes, du fait de cette expertise acquise au fil des années. Alors, préciser la dynamique des réseaux cérébraux pourrait révéler des éléments sensibles aux trajectoires cognitives individuelles, comme des délais dans les communications cérébrales ou une perte de la synchronisation de ces régions. Ce sont des éléments qui sont masqués lors d'évaluation comportementale, car il est possible de compenser des déficits fins, ce qui fait qu'on ne va pas forcément observer directement ces déficits au niveau comportemental, contrairement à la neuroimagerie qui va permettre d'être extrêmement sensible à la présence de ces changements, même fins, par rapport à une population contrôle. Alors, à l'heure actuelle, on connaît encore peu de choses sur la relation entre l'architecture des réseaux cérébraux et la dynamique fonctionnelle et temporelle de leur engagement, qui, comme je le disais, pourrait être très sensible et spécifique aux altérations cognitives individuelles. Donc, ces réseaux et leur évolution avec l'avancée en âge sont le sujet principal de mes recherches depuis mon doctorat de psychologie jusqu'à mon poste actuel. Dans l'étude que j'ai présentée et qui m'a valu l'attribution du prix Ribot, j'ai voulu déterminer dans quelle mesure les changements de la structure du cerveau, en particulier le réseau dense de fibres de matière blanche connectant les régions cérébrales entre elles, pouvait impacter les communications et la dynamique rapide de ces communications entre régions. Dans l'étude que j'ai réalisée, les participants devaient se rendre deux fois au laboratoire, une première fois pour une séquence IRM afin de mesurer l'anatomie cérébrale individuelle et les caractéristiques structurelles de chaque personne. Et les participants se rendaient une seconde fois au laboratoire, cette fois-ci pour un EEG, un enregistrement en électroencéphalographie. Donc dans ces cas-là, on pose un ensemble d'électrodes sur le cuir chevelu des participants afin d'enregistrer l'activité neuronale sous-jacente. Alors, au niveau IRM, pour visualiser l'intégrité des fibres de matière blanche connectant les régions, on utilise une méthode appelée l'imagerie par tenseur de diffusion qui va permettre de détecter ces fibres, de reconstruire ces fibres au sein de l'ensemble du cerveau et de préciser les niveaux d'intégrité de ces faisceaux par rapport à des individus contrôles qui sont des participants plus jeunes, âgés d'environ 30 ans. Donc, à l'aide de cette imagerie par diffusion, on reconstruit ce qu'on appelle une tractographie cérébrale et qui donne des images assez jolies de ces réseaux. Vous pouvez voir, par exemple, pour vous faire une idée, la couverture de l'album Muse de Second Law, qui présente donc en couverture cette tractographie. Et donc, on va mesurer ces profils très fins d'intégrité cérébrale par rapport au contrôle. Donc, on a besoin de ces mesures-là très précises parce qu'il n'y a pas de lésion cérébrale identifiée. On se place dans ce qu'on appelle le vieillissement normal, c'est-à-dire en l'absence de processus pathologiques diagnostiqués. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de ces mesures très fines. Donc, lors d'une session distincte, comme je le disais, l'EEG a permis d'étudier la synchronisation de l'activité des régions cérébrales, la dynamique de cette activité. Et donc, pour cela, on utilise un grand nombre d'électrodes couvrant le cuir chevelu, 128 électrodes qui sont regroupées dans un genre de bonnet qui tient ces électrodes entre elles. Et chaque électrode va mesurer l'activité électrique du cortex en dessous d'où elle se trouve. Pour avoir une idée de ce à quoi ressemblent les tracés EEG obtenus, vous pouvez regarder la pochette cette fois-ci du groupe Joy Division, l'album Unknown Pleasure, qui présente ces tracés en pochette. Afin de s'isoler du bruit électrique environnant, on a utilisé ce qu'on appelle une cage de Faraday, qui est en fait une grande boîte en métal, qui permet de s'affranchir du bruit électrique généré par les ampoules, les écrans, les ordinateurs, parce que l'activité électrique du cerveau est infime comparée à ces appareils, et donc il est nécessaire d'essayer de réduire le bruit électrique environnant pour détecter le plus précisément possible et de manière la plus fiable possible l'activité du cerveau. De même, donc cette activité cérébrale est infime par rapport à l'activité électrique générée par les muscles. Donc en fait, on demande aux participants d'essayer de ne pas trop cligner des yeux pendant les éléments les plus importants, parce que ces clignements d'yeux génèrent une activité électrique qui est bien supérieure à celle du cerveau, qui vont masquer pendant quelques millisecondes l'enregistrement du cerveau que nous sommes en train de réaliser. Donc afin de mobiliser les processus cognitifs les plus affectés par l'âge, et donc essayer d'avoir la plus grande sensibilité aux différences entre individus, on a utilisé une tâche arithmétique dans laquelle il était demandé aux participants de vérifier des problèmes arithmétiques, comme par exemple 8 x 4 égale 28, est-ce que c'est correct ou incorrect? Alors la subtilité de cette tâche est que le signe arithmétique n'était pas présent à l'écran, il était indiqué quelques secondes auparavant et devait être maintenu en tête afin de l'utiliser ultérieurement. Alors c'est une tâche qui peut sembler assez éloignée des activités du quotidien, mais l'objectif, c'est d'essayer de cibler ces processus dynamiques un peu coûteux de maintien d'informations pertinentes en mémoire et de suppression d'informations distractrices qui sont vraiment affectées fortement au cours du vieillissement. Imaginez une situation du quotidien comme le fait de devoir réaliser des courses au supermarché en fin de journée lorsque le magasin est bondé. Il va falloir maintenir en mémoire la liste des achats et son évolution à mesure que le panier se remplit, tout en régulant l'influence des conversations, des annonces, des publicités dont nous ferons l'expérience. Donc ici, on essaie de reproduire ces situations dans une situation contrôlée de laboratoire. Donc il fallait maintenir ce signe arithmétique en mémoire tout en ignorant un ensemble de stimuli qui sont présentés pendant la période de maintien et qui ne sont pas pertinents. Donc préciser les activations cérébrales pendant la réalisation de cette tâche permettait d'identifier quelles régions présentent une synchronisation de leur activité, c'est-à-dire que les fluctuations de leur activité au cours du temps surviennent de façon consistante entre ces régions. Cette synchronisation est importante car elle a été associée à la communication, à l'échange d'informations entre régions, et elle représente un aspect majeur du fonctionnement cérébral. Donc, dans l'étude que j'ai menée, en combinant les mesures de structure et ces mesures de synchronisation des régions, j'ai pu montrer que les effets du vieillissement résultent en partie de changements fins de l'intégrité des fibres de matière blanche. Et ces changements structuraux vont être directement liés au délai et à la perte de synchronisation entre régions cérébrales qui est essentielle pourtant aux fonctions cognitives de haut niveau. Ces changements donc, avec l'âge vont impacter donc, l'intégrité de ces fibres qui connectent les régions entre elles et qui vont créer donc, des délais et impacter la synchronisation de l'activité des régions cérébrales. Il faut imaginer les communications entre ces régions comme un orchestre qui jouerait une partition complexe impliquant plusieurs groupes d'instruments. Une synchronisation parfaite de l'activité de l'ensemble des musiciens est cruciale et il est suffisant qu'un seul musicien ne soit plus en rythme avec les autres pour impacter fortement l'ensemble de l'orchestre et la qualité de la partition jouée. Ainsi, donc même si l'activité de ces réseaux n'est pas complètement interrompue par la présence de lésions cérébrales, hein, je vous rappelle que cette étude portait sur le vieillissement normal, donc en l'absence de processus pathologique, on avait déjà des variations entre individus dans la qualité de la mise en synchronisation de ces régions et le maintien de cette synchronisation au cours du temps. Le maintien de la dynamique temporelle de la connectivité cérébrale apparaît par conséquent comme un déterminant majeur du fonctionnement cognitif. Et donc ces délais, ces pertes de communication qui surviennent avant l'accumulation des lésions cérébrales associées aux pathologies neurodégénératives permettraient de détecter précisément les différences entre individus et la progression des pathologies du vieillissement. Donc, de plus, la possible restauration de ces dynamiques permettrait de viser au maintien du fonctionnement cognitif et au maintien de l'autonomie des individus âgés. Mes travaux actuels visent à présent à déterminer des situations qui vont permettre d'améliorer la synchronisation entre régions cérébrales pour compenser ces changements survenant avec l'âge et essayer de maintenir un fonctionnement cognitif performant le plus longtemps possible. Alors, ces approches que je développe actuellement sont diverses. Elles sont plus ou moins directes. Certaines approches visent à utiliser ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne pour induire certains rythmes cérébraux et améliorer certains rythmes cérébraux dont on sait qu'ils sont importants pour le fonctionnement cognitif. Et de façon moins directe, mais plus facilement diffusable et plus généralisable, nous utilisons actuellement des stimuli rythmés, comme la musique, afin d'induire certains rythmes cérébraux via l'écoute de morceaux musicaux pour proposer des outils d'intervention qui soient réalisables à domicile, qui soient non pharmacologiques et qui puissent être diffusés le plus largement possible. Je vous remercie de votre attention.